confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Nous sommes avec Rémi Villemur. Et Rémi, tu veux nous parler d'une exposition au musée Pointe à Caillère, dans le Vieux-Montréal. Un musée que j'adore, qui est vraiment super beau. Là, c'est sur le quartier Saint-Henri. Ça me fait penser au fameux film, là. C'est quoi, là? Jacques Godbout et un paquet d'autres réalisateurs avaient filmé un documentaire sur le quartier Saint-Henri qui date des années 60.
Le 5 septembre.
Exactement.
Hubert Raquin. 1962, si ma mémoire est bonne. Oui, donc exposition qui se déroule jusqu'au 11 mai 2025. Donc j'aimerais ça dire aux gens qu'il faut se dépêcher, mais c'est pas tout à fait le cas. Ils ont encore plus d'un an pour y aller. J'y suis allé hier avec ma mère et ma sœur, donc sortie familiale. Très belle exposition.
Et c'est quoi? C'est des photos sur
photos, vidéos. Artefacts également, parce que Saint-Henri, c'est pas juste un quartier anglicisant comme aujourd'hui, c'est aussi un quartier ouvrier, industriel au 19e siècle, au 20e siècle également, et bien avant ça, c'était même un village, avant que ça devienne un quartier à l'intérieur de Montréal, c'était le village de Saint-Henri des Tanneries, où il y avait des tanneurs, donc des gens qui faisaient du cuir à partir de peaux d'animaux, des vaches essentiellement, un métier très difficile. Une exposition dans laquelle on découvre finalement que je pense pas que ça existe, en fait, un privilège blanc au Québec, parce que, écoute, des photos d'enfants qui travaillent, des femmes qui sont cernées, qui ont l'air d'être des mémés à 25 ans, des messieurs de 5 pieds, 7 pouces, avec des mains aussi larges que ton cou puis le mien, juxtaposés ensemble. Un quartier difficile, hein? Je sais pas si tu connais l'histoire du Clan du Bois. Je sais qu'il y a un balado sur l'application Cube sur le Clan du Bois. C'est un quartier difficile où il y avait de la violence, de la criminalité. Bonheur d'occasion. Le livre de Gabriel Leroy,
magnifique,
écrit durant la Seconde Guerre mondiale, un livre presque anthropologique parce que Gabriel Leroy descendait de Westmount.
Mais c'est ça, c'est parce que c'est juste en bas, les gens de Westmount avaient une vue sur les pauvres en bas,
également,
qui étaient à Saint-Henri.
Ouais, puis dans l'exposition, d'ailleurs, il y a une vidéo de Yvon Deschamps, qui est natif de Saint-Henri, qui dit, nous, quand on était très, très jeune, on regardait la montagne, puis on disait, waouh, c'est un autre monde, ça. Puis on dirait qu'il fait juste soleil de ce bord-là. Puis regarde, pour les gens qui nous regardent en ce moment, ça, c'est une photo qui date du 19e siècle. C'est des abattoirs, Le Cavalier et Riel à Saint-Henri. T'as le petit garçon, lui, là, je pense pas qu'il s'obstinait pour une part de carotte, là, ce petit garçon-là. T'as le deuxième gars à partir de la gauche qui a un bicep par-dessus son bicep. Il y a comme deux biceps, ce gars-là. Ça existe pas, le privilège blanc. C'est l'histoire des Canadiens français. C'est une belle exposition. Si vous êtes ouvert d'esprit, c'est ça, là, vous questionnez, vous dites, waouh, OK, ça n'a pas toujours été facile, finalement.
Non.
Tu sais, aujourd'hui, les gens payent la totale pour vivre dans des appartements très mal arrangé où le plancher craque, mais à l'époque, on était 12, 13 enfants là-dedans.
Ben, tu disais Saint-Henri, puis qui regardait en haut, Westmount, c'est un peu comme la Basse-Ville puis la Haute-Ville à Québec. Hein. C'est la même chose.
Exactement.
La distinction de classe, elle est géographique, là, vraiment.
Puis les pauvres sont toujours plus bas.
Les pauvres sont tout le temps plus bas.
Plus près de l'eau, plus vulnérables en cas d'inondation. Oui. Tu sais, Saint-Henri, c'était difficile, là. Je veux dire, c'était de la pollution, c'était... tu sais, les gens, ils travaillaient dans des usines. Dans les années 30, 1930, 75% des cigarettes au Canada étaient produites à Saint-Henri et à Hochelaga-Maisonneuve. Imagine-toi, là, 3 cigarettes sur 4 étaient fabriquées soit dans un quartier ou dans l'autre. Puis les gens vivaient à côté de leur lieu de travail. C'était de la pollution, s'il faisait pas beau. Tu pouvais vraiment jamais sortir, en fait, de ton univers de travail parce que tu sortais de ton travail, tu t'en allais, tu marchais 2 minutes, tu étais rendu chez vous. Le lendemain, tu te réveillais à l'aube, tu t'en retournais travailler. Mais c'était des vies aliénantes.
Mais tu sais, il y avait, moi, je viens de Verdun, donc il y avait Verdun, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Ville-Jean-Cartier, d'où venaient les Roses, là.
Oui.
Magnifique film, Les Roses de Félix Rose, justement, sur ça. Voyons.
Centre-Sud aussi.
Oui, c'est ça. Claude Dubois vient du Faubourg Amelas aussi, là, je crois, là. C'est dans le coin de Radio-Canada, je crois, puis il y avait des taudis épouvantables qu'on a démolis, bien sûr. Écoute, il y avait beaucoup de quartiers pauvres à Montréal.
Ben vraiment.
Puis c'était des francophones qui étaient là.
Des francophones ou même des Irlandais. Tu sais, regarde dans Saint-Henri, Verdun, tu connais l'histoire du canal de la Chine. Ça a été creusé au pic et à la pelle. À partir de 1821, 7 jours par semaine, des gars qui étaient sous-payés, sais, imagine-toi aujourd'hui, on prendrait des grosses pelles, on creuserait, on ramasserait ça. Dans le temps, tu cognais, tu frappais sur du bois, puis de la grosse roche, puis tu creusais, puis tu creusais, puis tu creusais.
Est-ce qu'on parle de la gentrification dans cette expo-là? Parce que maintenant, il y a des restaurants branchés à Saint-Henri.
Oui, on en parle. C'est fait avec bonhomie, disons, je te dirais. C'était pas ma décision. Moi, j'ai travaillé, je l'ai pas mentionné, mais j'ai travaillé un peu à la recherche sur cette exposition-là. Moi, j'ai une opinion un petit peu... Ça dépend, je chemine un peu, mais je te dirais que je suis encore...
La gentrification?
Ouais, donc je suis un petit peu encore du côté des pauvres de Ouais. Je te dirais qu'il y a des quartiers pour moi qui appartiennent aux ouvriers, qui appartiennent aux pauvres. Puis Saint-Henri, c'est assez frappant parce que, comme je te dis, il y a des gens qui habitent dans des appartements. Aujourd'hui, ils payent 2 500 $ de loyer, puis c'est un 5,5. Puis à l'époque, c'était considéré être pauvre. Mais là, aujourd'hui, ils ont transformé ça en quelque chose de luxueux. Puis le quartier n'appartient plus vraiment aux pauvres.
Y a-tu une cohabitation? Parce que bon, Verdun, avant Verdun, c'était rien que t'allais à Wellington, puis c'était des magasins 5-10-15, puis des friperies, puis des trucs hot dog. Aujourd'hui, t'as ça, mais à côté, tu peux avoir un resto branché thaïlandais ou turc.
Oui, c'est le cas.
T'as comme une cohabitation entre les deux. Là.
Oui, et je pense que c'est relativement paisible. Par contre, Saint-Henri, ça a déjà été, disons, pas mal hostile. Là. Il y a déjà eu beaucoup de vandalisme. Ça a été une cause qui a été récupérée par des anarchistes, là, faut dire. Là, en ce moment, c'est pas mal Hochelaga, où j'habite, qui est la cible des anarchistes. Il y a une grosse tour à condo qui est née sur la rue Ontario. Ça a été crotté là, du toit jusqu'à la base. C'est dégueulasse. Ils ont garoché de la peinture un peu partout. Le message est en train de passer. Mais écoute, c'est l'avenir. Moi, ma seule préoccupation, c'est, je me dis tout le temps, quand on sort les pauvres des quartiers, on les amène toujours de plus en plus dans l'Est, puis à un moment donné, ben, Montréal est une île, donc on va les jeter à l'eau. Il n'y aura plus de terrain.
On les tasse.
Ben, là, ils sont partis d'Hochelaga, s'en vont dans Mercier, ensuite dans Montréal-Est, puis je te dirais que pour avoir déjà fait cette fameuse marche entre la riche Montréal-Est et Westmount...
Il y a des gens peut-être, là, comme, je sais pas, ils connaissent pas Saint-Henri, ils vont jamais ou connaissent pas Verdun parce que soudainement, il y a un restaurant qui est branché, qui ouvre, là, ils vont y aller et là, ben, ils découvrent le quartier. Par exemple, il y a des gens qui découvrent Verdun, puis ils peuvent dépenser leur argent dans d'autres commerces. C'est peut-être bon aussi, là, ça attire des gens qui ne sont pas nécessairement du quartier.
Oui, c'est sûr que ça, y a ça comme avantage. Quand tu amènes des gens qui sont plus éduqués, plus fortunés, il y a peut-être on appelle ça un renouvellement là au niveau même juste du visuel. Il y a moins de saleté, il y a plus de propreté, il y a moins de criminalité également. Mais
ces gens-là, il faut qu'ils habitent quelque part.
Oui.
Il faut qu'ils vivent quelque part.
Ben, tout le monde doit vivre quelque part. C'est juste que, puis tu sais, je peux pas me dire nostalgique du temps où les pauvres habitaient juste avec les pauvres puis les riches juste avec les riches. Il doit avoir un avantage à faire cohabiter tous ces gens-là ensemble, mais j'ai pas l'impression que les pauvres sont des batailleurs égaux dans cette lutte-là. Je pense qu'ils se font pas mal surclasser. Mais écoute, très belle exposition. Franchement, là, ça vaut le détour. Puis on découvre finalement un quartier qui n'est pas celui qu'il est aujourd'hui. Un quartier où les gens ont lutté. Vraiment lutté fort.
Comme tu dis, là, le privilège blanc, ben, tu regardes ces photos-là, c'était des blancs, puis ils n'étaient pas privilégiés, mettons. Ils habitaient dans des taudis, puis il y avait des jobs de cul.
De cul.
Littéralement, cette photo-là. Donc, la semaine dynastie jusqu'au 27 avril, c'est quoi ça?
Ben, tout est dans tout, hein, puisque... Ça, c'est la 8e édition d'un gala qui célèbre les réalisations exceptionnelles des personnes issues des communautés noires du Québec, donc dans le domaine des médias, des arts et de la culture. Et là, ça s'étend cette semaine, donc du 20 au 27 avril. Hier, je pense qu'il y avait un gala de remise de prix. Moi, je te dirais que je suis un petit peu mal à l'aise quand je vois des choses comme ça. Et là, qu'on se comprenne bien, j'ai aucun problème à ce que des Noirs reçoivent des prix. C'est pas la discussion aujourd'hui. Par contre, on entend sans cesse des gens issus des communautés culturelles dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de diversité à l'écran ou même dans les galas de remise de prix. Et je pense que le message a passé. Pour les gens qui compareraient, mettons, le gala artiste il y a 20 ans à celui d'aujourd'hui, ou les Olivier, ou même juste une série au Québec il y a 20 ans, un film avec aujourd'hui, je pense que le message a passé. Est-ce que c'est raisonnable? J'en sais rien, là. Mais là, je trouve ça contradictoire que parallèlement à ça, il y a un gala où on remette juste des prix à des Noirs. Et je regardais hier, plutôt ce matin, des extraits du gala de l'année passée, le tapis noir, ils appellent ça le black carpet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anglais dans ces soirées-là. Je trouve que le français a pas vraiment une place prépondérante. Et là, les gens disaient, ben écoute, ça fait du bien de se remettre des prix entre nous autres. Les Noirs sont vivants, les Noirs sont actifs.
Entre nous autres, moi c'est entre nous autres.
Ben c'est ça le problème, c'est que
le communautarisme là. Tu sais qu'il y a des répertoires de commerce qui sont possédés par telle ou telle minorité, puis tout ça, là, tu sais, mettons un répertoire de commerce qui appartient à des Noirs, un répertoire de commerce qui appartient à des Autochtones et tout ça. C'est une bonne affaire d'être chacun dans son petit ghetto?
Ben, c'est évidemment plus complexe. Tu sais, des fois, j'entends du monde dire, ben là, si on dit que les Blancs devraient pas juste se remettre des prix, ben ça devrait être la même affaire pour les Noirs. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça mène ultimement au même résultat. C'est-à-dire que si tout le monde s'organise entre eux autres, et qu'en plus, il y a une revendication parallèle à ça de dire on devrait tout être inclus, ben ça marche pas. Puis hier, j'écoutais donc du monde se dire la communauté noire, tu sais. Là on disait ça existe pas les Blancs. Tu sais, on n'est pas, je m'excuse, mais le destin des Québécois, le passé des Québécois, c'est pas le passé des Polonais, c'est pas le passé des Américains blancs, mais ça existe pas non plus les Noirs. Il y a des Noirs. T'sais. Un Haïtien n'a pas le même passé qu'un Jamaïcain, qui n'a pas le même passé qu'un Antillais, qui n'a pas le même passé qu'un Africain. Enfin, c'est pas la même affaire.
Je lisais récemment, justement, en fait, c'est Bill Maher qui avait fait un éditorial là-dessus et on voyait des extraits de propos qui ont été tenus par des comédiens noirs. Il y avait une comédienne noire, elle dit, moi, je suis tannée qu'on dise « I'm Afro-American ».« I am American ». Elle dit, je suis jamais allée en Afrique. Je suis pas allé en Afrique, c'est pas mes racines à moi, c'était en Oklahoma ou c'était à Chicago puis tout ça, puis j'ai jamais allé en Afrique, puis ça me tente pas d'aller là. Je suis une Américaine, puis qu'on dise de moi que je suis une Américaine et pas une Afro-Américaine. Puis il y a de plus en plus de gens connus qui commencent à avoir ce discours-là.
Ah oui, mais de toute façon,
de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt de mettre l'accent sur ce qui nous distingue et divise.
Tu sais, je serais venu te parler de ça dans n'importe quelle circonstance, mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont, par exemple, des Noirs, puis qui me disent que ça me rend mal à l'aise de ce genre d'initiative-là, parce que moi, je me considère Québécois et je lutte pour qu'on me reconnaisse comme tel. Et là, ensuite, il y a des gens de mes communautés ou de ma communauté qui vont dire, nous, on est des Noirs. Avant d'être des Québécois, on est des Noirs. Puis tu dis, ben là, vous reculez ou alors vous bloquez, mais on n'avance certainement pas. Là, tu sais. Ce qui nous unit, c'est la culture. C'est le fait d'être un Québécois, ou le fait d'être un Américain, ou le fait d'être un Européen, ou le fait d'être un Français. C'est pas d'être un Noir. Ça, c'est un recul. Puis ça existe pas, les Noirs. Il y a toutes sortes de Noirs.
Oui, c'est la Ligue des Noirs qui se prononce au nom de tous les Noirs. Et non, les Noirs sont pas, ils viennent pas du même moule. Là.
Non, pas du tout.
Il y a des gens qui sont à gauche, des gens qui sont à droite, des gens, il y a toutes sortes de trucs là-dedans. Xavier Dolan avait reçu un prix, justement, dans un festival de films gays. Et quand il est allé chercher son prix, il avait dit, ben merci beaucoup, c'est très gentil, tout ça, mais dit, je ne suis pas un réalisateur gay, je fais pas des films gays, je fais des films.
Ben oui, c'est ça.
Un réalisateur.
Ben oui, puis tu sais, ça se peut que Xavier Dolan ne s'entende pas avec tous les gays. Ben ça se peut même que la personne qui aime le moins sa terre, ce soit un gay. Tu sais, les Noirs, c'est pas quand ils se voient, ils sont pas comme « Ah, un Noir, ils ont pas besoin de se parler puis ils se comprennent. » Mais non, il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute. Il y a le langage, il y a la culture, il y a l'expérience, il y a l'histoire. Un Noir qui est pauvre, il ressemble probablement plus à un Blanc qui est pauvre qu'à un Noir qui est riche. On l'oublie aussi, la disparité économique.
Ben
mais
oui.
Ça, c'est là que les gauchistes des années 70 avaient raison. C'est que finalement, c'est toujours une question d'argent.
Et tu vois le film American Fiction, qui est un film extraordinaire, où ça parle des Noirs bourgeois qui ont des maisons dans les Hamptons. Puis, tu sais, le gars a une vie très bourgeoise, puis tout ça. Puis lui, il s'associe pas au rappeur qui dit « fuck les Blancs », puis tout ça, puis l'affaire. C'est pas ça, il fait partie. Ça n'a rien à voir. Prends Muriel Châtelier, puis un militant noir, là... qui est très à gauche.
Mais ça arrache en face.
Ils n'ont pas grand-chose ensemble.
Ils n'ont rien
en commun. Donc, écoute, ça s'appelle la semaine dynastie. C'est jusqu'au 27 avril. Merci beaucoup.
Merci, Rémi.
Bye-bye. Salut.